Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix de la Plume. Je suis Aurore et vous allez passer les prochaines minutes avec moi. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale que nous allons avoir puisque je suis aux Imaginales, ou en tout cas, je l'ai été au mois de mai, du 19 au 22 mai, et je vous propose une émission enregistrée sur place. Vous allez pouvoir donc entendre différents auteurs vous parler de leurs romans. Les Imaginales à Épinal, c'est un festival de l'imaginaire, littérature de l'imaginaire, donc axé sur la fantasy, le fantastique, la science-fiction, le conte, le rêve. Il y avait aussi des illustratrices et des illustrateurs qui étaient là, des créateurs de BD. Nous avons un petit peu manqué de mangaka cette année, mais il se peut aussi qu'il y en ait. Voilà, donc je vous propose cette émission un petit peu particulière où vous allez pouvoir du coup rencontrer ces différents auteurs en ma compagnie. Et me voilà avec Gauthier. Alors, Gauthier Durieux de Madron, qui a fait une saga qui s'appelle Au nom des dieux. Gauthier, est-ce que tu peux bien nous parler un petit peu de ta saga ?
Bonjour à tous, merci déjà à Aurore de me fournir l'opportunité de parler sur votre radio. Au nom des dieux, c'est plus qu'une saga, c'est un univers littéraire dont l'objectif est de fournir au grand public une porte d'entrée pour découvrir ou redécouvrir les mythologies du monde entier, et ce par le biais de récits épiques et fantastiques. En effet, je souhaitais faire cette redécouverte de toutes les mythologies, mais le faire en un ou deux livres, ça aurait été imbuvable, ou alors j'aurais appelé ça encyclopédie. J'ai donc décidé en fait de raconter plusieurs histoires qui vont se dérouler au sein du même univers, connectées entre elles ou non, mais qui me permettent ainsi d'explorer différents mythes, différents panthéons, différentes légendes.
Alors le pitch de Au nom des dieux, c'est: comment réagiriez-vous en découvrant au crépuscule de l'humanité que toutes les légendes antiques était vrai? Donc moi, ça m'a beaucoup interpellée. En plus, je vois sur ton stand, tu as le marteau de Thor, tu fumes la pipe. Hein, du coup, il y a quand même aussi un personnage derrière l'auteur. C'est hyper cool. Donc, tu as dit que c'est plus qu'une saga. Ça veut dire que tes histoires sont décousues les unes des autres. On peut les lire dans tous les sens, ou du coup, il y a un ordre? Comment ça se passe?
Alors, pour les deux premières qui sont sorties, on peut les lire dans n'importe quel sens. On peut lire la deuxième avant d'avoir lu la première. On peut ne lire qu'une histoire aussi. C'est un de mes intérêts, c'est que je ne supporte plus les sagas en 14 volumes minimum, et où l'auteur va mourir au dixième parce qu'il s'y est pris à 80 ans. Bonjour George Martin, si tu m'entends.
Oui, j'allais dire, on ne voit pas du tout de qui tu parles en disant ça.
Je me suis dit, avant toute chose, je veux proposer d'abord une histoire. Et une bonne histoire aussi qui a une fin. Et donc je me suis dit, je vais commencer par faire une histoire que je vais terminer, et puis après j'en ferai d'autres dans le même univers. Alors pour l'instant, les deux histoires sont déconnectées, d'autres à venir seront liées à des précédentes, mais pour l'instant c'est les deux histoires sont séparées.
D'accord, et tu as parlé de mythologie du monde entier. Ça veut dire que tu parles de la mythologie grecque, mais tu peux aussi parler de la mythologie scandinave, ou... Enfin voilà, quelles sont les mythologies que tu abordes? Est-ce que c'est une mythologie à la fois, ou est-ce que du coup tu mélanges différentes mythologies dans tes histoires?
Alors non, c'est toutes et toutes en même temps.
D'accord, toutes. Donc... japonaise, hawaïenne, tout peut y passer, vraiment.
Alors, sur nos magnifiques t-shirts que vous n'avez pas l'opportunité de voir malheureusement, le grand symbole Au nom des dieux est justement entouré de 16 symboles de différentes mythologies qui seront explorés. Un véritable tour du monde, vu que, allez, pour faire la liste, on va commencer. Alors, celtes, scandinaves, gréco-romaines, je fais le syncrétisme pour faciliter, slaves, sumériennes, égyptiennes, orishas, Afrique de l'Ouest, vaudou, hindou, chinois, japonais, Polynésie, Pacifique pour être exact, techniquement je m'étends de la Nouvelle-Zélande jusqu'à Hawaï.
Allez, plus que 4.
Polynésie, Inca, Maya, Aztèque et Amérindien du Nord.
Ok, donc effectivement, on a vraiment fait le tour du monde là. Génial, écoute, moi ça m'intrigue. Je m'avance peut-être, mais je pense que je vais t'en prendre un. comment tu as commencé à écrire, et depuis combien de temps tu écris, et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur ce thème-là plutôt que sur autre chose?
Alors, ça fait 6 ans et 2 mois pour être exact, je tiens encore un peu le compte. Ça fait 6 ans que j'ai commencé à écrire, Disons que un beau matin, alors que j'étais en Suède, je me suis dit mes études ne me plaisent pas et j'avais une histoire que j'avais envie de raconter. Je me suis lancé vraiment sur un coup de tête. Ça fait 6 ans et ça fait 6 ans que je ne m'arrête pas. Je pense que j'ai un problème.
Un problème qui se résout plutôt bien, je pense, puisque vu combien on en a là, 1, 2, 3, 4.
Donc, il y a 4 autres qui sont prêts dans les cartons et qui attendent leur... La couverture et encore des corrections.
D'accord, 4 déjà prêts, pardon, et 4 du coup pour l'année prochaine on sera bon là.
L'année prochaine il y en aura un, je les publie un par an.
D'accord, tu te gardes un petit peu sous le coude.
Il faut savoir faire la promotion et puis surtout mon illustrateur va me buter si je lui fais balance toutes les couvertures à faire d'un coup. Je pense qu'il m'en voudra beaucoup.
Un petit clin d'œil donc à l'illustrateur, à qui on va laisser le temps de travailler aussi. Tu écris donc plus vite qu'il ne t'illustre.
Oui. Alors, j'ai un peu triché, on a eu 3 confinements. Ça a beaucoup aidé, j'avais pas encore trouvé mon boulot, donc...
Tu t'es occupé.
C'est ça, j'ai rentabilisé mes journées.
Oui, parce que finalement, si ça fait 6 ans que tu écris et tu me dis que tu as quasiment écrit 8 romans au total, même s'il y en a 4 qui sont pas encore sortis, c'est quand même assez prolifique.
Ah bah 2020, j'en ai écrit 3.
En effet. Eh bah écoute, merci beaucoup Gauthier pour cette interview sur le pouce pendant les imaginales. J'espère que tu auras beaucoup de succès et puis moi ça m'intrigue beaucoup donc je vais essayer de commencer à te lire aussi. Ça me fera plaisir.
Ah bah merci à toi Aurore, encore une fois pour cette petite opportunité. Merci pour tes questions et j'espère avoir su répondre à toutes les questions que vous avez pu vous poser et à vous donner envie de venir découvrir mon univers.
Oui, donc je rappelle, ça s'appelle Au nom des dieux de Gauthier Durieux de Madron. On peut te trouver sur les réseaux sociaux, Gauthier ?
Facebook, Instagram, TikTok et maintenant un nouveau réseau social qui vient de sortir, qui s'appelle Fellowship et qui permet justement de se tenir facilement au courant des projets qu'on suit, des aventures qu'on suit, tout simplement par mail, des mails qui ne sont pas invasifs, qui renvoie juste sur quelques actualités, des petits billets de nouvelles. Le réseau social est tout neuf, il vient tout juste de sortir.
Fellowship.
Et vous pouvez suivre Au nom des dieux justement dessus.
Ok, donc sur Facebook, Insta, Twitter...
Non, pas Twitter,
TikTok, on a dit au nom des dieux, c'est sur
ça,
ce nom-là. Pas sur ton nom d'auteur, mais sur ton nom de livre.
À chaque fois, ce sera Au nom des dieux pour l'instant. Quand je passerai à autre chose, je changerai, mais pour l'instant, c'est Au nom des dieux.
Pour l'instant, on n'y est pas, vu que tu as 4 romans d'avance encore.
C'est ça.
On a un peu le temps. Merci beaucoup, Gauthier.
Merci à toi.
Et me voilà maintenant avec Julie Müller-Wolb, qui est romancière. Julie, merci d'avoir accepté de parler un petit peu au micro de La Voix de la Plume et de Graphite. Dis-nous-en un peu plus sur tes romans, parce que je vois qu'il y a sur ton stand, il y a beaucoup de romans, que ça a l'air éclectique ce que tu écris.
Effectivement, je suis une romancière multigenre qui aime toucher à tout, sauf au polar et au thriller, parce que j'ai peur, donc je préfère ne laisser ça aux professionnels et je me contente des trucs un petit peu plus joyeux.
Un petit peu plus joyeux, je vois qu'il y a de la romance sur ton stand, mais aussi du fantastique et même de la dystopie, fantasy dystopique. C'est pas hyper joyeux quand même, la dystopie.
Non, mais ça finit quand même bien au final. On essaye du moins, en tout cas.
Super. Donc du coup, multigenre, est-ce que c'est parce que t'as besoin d'écrire différents genres ou c'est parce que t'avais envie de toucher à plusieurs choses pour t'essayer ? Comment t'en es venue à choisir ces différents genres ?
J'ai commencé en fait par du young adult fantastique parce que c'est mon genre de prédilection, c'est ce que je lis essentiellement en globalité. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'écrire de la romance. Je n'ai pas aucune idée de pourquoi j'ai fait ça. Je ne lis pas de romance en général. Mais j'attends que les histoires viennent à moi et qu'elles aient envie d'être racontées par ma plume. C'est un petit peu, je me laisse guider en fait par l'inspiration.
Super, donc tu ne lis pas de romance et tu en as écrit. Est-ce que c'est une romance sur laquelle tu as eu un lectorat intéressé, qui t'en a redemandé peut-être ?
Oui, c'est une romance atypique en fait, puisque j'ai choisi un sujet tabou qui est l'adultère, donc c'est un sujet difficile et tabou. Je partais pas gagnante, mais finalement il est toujours encore dans le top 100 d'Amazon, des meilleures ventes, de la boutique générale. Ça plaît plutôt bien et j'en ai une autre romance qui sortira à la fin de l'année.
Eh bien, félicitations, ça, ce sont de bonnes nouvelles. Je vois là un roman qui m'a l'air d'être ton dernier roman. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur celui-ci ?
Mon dernier roman est sorti le mois dernier, il s'appelle Apis Apocalypsis. On dirait de l'homéopathie, mais pas du tout. En fait, c'est un roman qui traite de la cause des abeilles et de l'urgence écologique. J'avais envie de montrer qu'une toute petite bête, en fait, pouvait déclencher l'apocalypse. Et c'est comme ça que j'ai construit mon univers, dans un monde où les abeilles auraient disparu, où l'oxygène se serait raréfié et les survivants se seraient retranchés dans les bunkers de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir survivre et travailler pour gagner leur oxygène quotidienne.
Un sujet quand même bien d'actualité avec tout ce qu'on parle autour de l'environnement et de l'écologie, effectivement. Mais de là jusqu'à gagner son oxygène, c'est un thème assez, un peu même presque nouveau. On l'a vu des fois dans des séries Netflix, enfin c'est arrivé, mais c'est un thème intéressant à traiter en tout cas. Le mois dernier donc, c'est sorti.
Oui, c'est sorti le mois dernier, le 8 avril.
Très bien. Et bien, dis donc, une auteure prolifique encore aujourd'hui au micro de La Voix de la Plume. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous dire en particulier, quelque chose dont on n'aurait pas parlé? Et moi, j'en arrive plus à parler, mais c'est pas grave. Ça arrive.
Je suis très contente d'être aux Imaginales et de vous avoir rencontré. Je suis très honorée d'avoir été interviewée et vraiment très contente. Merci beaucoup.
C'est ton premier salon? C'est ce que tu me disais ce matin?
C'est mon premier salon des Imaginales, oui, effectivement, en tant qu'autrice, auteur ou bien romancière, ça dépend de dans quel clan on se positionne.
La première fois aux Imaginales, c'est une belle fois parce qu'on a un temps magnifique. En plus, on est dans le contexte normal, parce que pour ceux qui l'ont fait l'année dernière, on était un peu dispersés à travers la ville. Là, on est tous regroupés dans un parc et c'est vrai que c'est vraiment chouette. J'en profite aussi pour dire que tu es une auteure auto-éditée. C'est un choix que tu as fait après... une autre expérience, mais du coup tu as choisi d'être auto-édité. Et du coup, est-ce que tu as envie de dire un petit mot sur Book on Demand, parce que c'est grâce à eux que tu es sur le stand aujourd'hui?
Je voulais les remercier de m'avoir permis de participer aux Imaginales, de pouvoir être présente sur leur stand et de pouvoir leur offrir une qualité littéraire aux auteurs et aux lecteurs d'ailleurs. Qui concurrence l'édition traditionnelle. C'est sympa de pouvoir montrer en fait que les auteurs indépendants sont aussi qualitatifs parfois que les auteurs en maison d'édition.
Oui, et je pense que tu n'as même pas besoin de dire parfois, parce qu'il y a des auteurs en maison d'édition qui ne sont pas du tout quali. Ça arrive aussi, il faut le dire, non, mais j'interview beaucoup d'auteurs au micro de La Voix de la Plume et on voit un peu de tout aussi dans la façon dont on est traité et dans la façon dont ça se traite. Les relations éditeur-auteur et donc des auteurs indépendants, il y en a plein. Est-ce que tu vis de ta plume?
Alors ça dépend ce qu'on entend par vivre de sa plume. Je suis autrice, auteur ou romancière à plein temps, encore que c'est faux, je suis maman à plein temps, mais mon métier principal c'est d'écrire. En termes financiers, je ne suis pas tout à fait indépendante pour l'instant, mais la tendance y parvient, doucement mais sûrement.
Ah, donc voilà, tu es en bonne voie en tout cas pour être financièrement indépendante et pouvoir vivre de ta plume et non pas faire que écrire malgré les difficultés à côté.
Voilà, c'est ça.
Eh bien, ça c'est une belle... amélioration dans la vie des auteurs, et c'est intéressant de le savoir parce que c'est quand même très récent, très souvent au micro de La Voix de la Plume qu'on a des auteurs qui ne vivent pas de leur plume, qui ont un vrai métier, je mets des guillemets parce que disons un métier qui nourrit la famille à côté, et savoir que non, c'est possible aussi en auto-édition en plus de pouvoir arriver presque à l'autonomie financière, et ben ça fait plaisir à entendre et ça donne de l'espoir pour tout un tas d'auteurs derrière, je pense.
Oui, je suis très contente du coup de pouvoir offrir cet espoir à tous ces auteurs. Parce que c'est vraiment génial de pouvoir combiner une passion, un métier et une vie de famille. Donc voilà, que du bonheur.
Je vois, moi je te vois, j'espère que les auditeurs l'entendent aussi. Tu as l'air très épanouie dans ce que tu fais, tu es très souriante. Le stand est très agréable aussi à voir. Donc voilà, avec ta petite couronne de fleurs, tu nous embellis. Merci beaucoup Julie, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Insta à Julie Müller-Volb, auteur avec un E. Je note que tu n'as pas écrit romancière.
C'était mes débuts.
Voilà, tu avais choisi ça au début. Voilà, Julie Müller-Volb, auteur. On rappelle le nom de ton dernier roman.
Apis Apocalypsis.
Me voilà maintenant avec Dimitri Olivier, un jeune auteur qui vient de sortir son premier roman. Dimitri, dis-nous tout sur ce premier roman. Et déjà, bonjour et bienvenue dans La Voix de la Plume.
Bonjour, ben déjà merci pour cette invitation, pour en tout cas me laisser me présenter et parler d'Emmy. Donc Le Voyage d'Emmy, La Forêt Cordebook, c'est le premier tome d'une saga fantasy, Isekai comme j'aime bien le dire. Donc Isekai c'est un mot japonais qui veut dire les univers parallèles, le monde parallèle. Et c'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui est invoquée dans un univers parallèle totalement différent d'une autre et elle a perdu la mémoire. Et très vite, elle va apprendre qu'elle a une mission liée avec sa perte de mémoire et elle va partir en voyage pour découvrir qui elle est et avec elle découvrir des peuples qui vivent parfois dans des forêts profondes ou au bord de la destruction ou parfois qui vivent dans des cités magiques, magnifiques, majestueuses. Et donc voilà, j'aime bien dire ça, c'est ma petite Emmy, forte et courageuse, mais remplie de doutes, parce que c'est très difficile pour elle de mener à bien sa quête, alors qu'elle ne sait pas qui elle est vraiment.
Merci, bah ça promet donc un roman plutôt initiatique pour Le Voyage d'Emmy, dont le titre parle de soi d'ailleurs. Si je m'abuse, tu es en train de finir tes études pour être professeur de japonais. Tu as parlé d'un style de fantasy qu'on entend peu, tu pourras nous le redire. Et en quoi, du coup, cette passion pour le Japon a nourri ton imaginaire et a nourri ton premier roman ?
Oui, alors voilà, c'est isekai, c'est un mot japonais qui veut dire, voilà, je redis, univers parallèle, monde parallèle. On en voit beaucoup au Japon, c'est un genre de fantasy, c'est un sous-genre de fantasy, la fantasy isekai, comme je peux citer peut-être SAO, Sword Art Online, ou encore Log Horizon. Il y a aussi, il y en a tout plein, et effectivement, le Japon... Maintenant, je côtoie la culture japonaise depuis l'enfance, à travers les mangas, les animés, aussi les jeux vidéo, grâce à mes parents qui m'ont inculqué toute cette passion-là, on va dire. Et j'ai aussi pu avoir l'occasion de voyager, de rencontrer, de parler avec énormément de Japonais. Et toute cette différence de culture avec notre culture française et puis tout cet univers que les Japonais peuvent créer dans leurs œuvres, tout ça, ça m'a beaucoup inspiré pour Emmy et pour mes écrits, en tout cas.
En quoi, je veux savoir.
En quoi ? Alors déjà, il y a la nourriture qui peut apparaître dans le roman, enfin dans les romans. Il y a aussi tout ce qui est parfois les paysages et aussi la manière des personnages d'être, enfin, je veux dire, la manière d'être en échange avec l'autre. Je ne sais pas comment trop m'exprimer.
C'est le comportement social des personnages ?
C'est ça, le comportement social des personnages, merci. Et après, il y a différentes choses, la façon de penser, la philosophie, voilà, les paysages que je peux retranscrire.
C'est déjà bien, enfin, ça donne déjà une trame d'univers intéressante. On a dit que c'était le tome 1, Le Voyage d'Emmy. Tu prévois de faire combien de tomes ?
Oui, alors ce sera en 5 tomes. C'est long, c'est un voyage qui est long, mais j'espère en tout cas que vous ferez un très beau voyage avec Emmy, car ça me tient beaucoup à cœur. Emmy, c'est comme ma petite fille et... Voilà, on me dit souvent que aussi Emmy c'est une part de moi, donc... j'ai oublié de dire aussi qu'il y a beaucoup de pop culture, donc il y a aussi quelques références à la pop culture évidemment, animé, manga et jeux vidéo. Donc ça aussi, si vous êtes friand de cette pop culture-là, bah, je vous mets au défi de la relever et après de venir m'en parler si vous en trouvez.
De trouver les références qui sont cachées dans Le Voyage d'Emmy. 5 tomes, je vais dire c'est marrant parce qu'on peut facilement se projeter en disant bah, je vais écrire 2 tomes ou je vais écrire déjà un et puis je vais voir en fait, bah, là tu sais que c'est pas fini, ça peut être 3 tomes. Comment on décide que ça va faire 5 tomes ? Est-ce que du coup ça veut dire qu'il y a une sorte de rythme dans le roman qui fait qu'au bout de 5 tu sais que ça sera la fin ? Ou est-ce que c'est 5 mais ça pourrait être finalement 7 si jamais tu débordes trop ?
Non, ce sera vraiment 5. C'est 5 tomes sûrs et certains parce qu'il ne pouvait pas y en avoir 4, il ne pouvait pas y en avoir 6. Voilà, je ne veux pas trop révéler parce que je ne l'ai dit encore à personne, cette information, donc il faut lire pour comprendre. Après, je pense qu'au bout du 5e tome, effectivement, les gens peut-être comprendront davantage d'éléments qui ont été parsemés au fil des tomes et peut-être qu'ils pourraient avoir une relecture pour pouvoir comprendre cette histoire un peu plus en profondeur ensuite.
D'accord, donc j'ai posé la question qu'il ne fallait pas poser.
C'est exactement ça, oui.
Bah, je suis bien contente. Merci beaucoup, Dimitri. On peut te trouver sur les réseaux sociaux. Tu nous rappelles où et à quel nom ?
Oui, alors sur Instagram, Dimitri-du-bas, Olivier-du-bas. J'ai aussi une petite chaîne YouTube de Dimitri Olivier. J'ai aussi un compte Facebook, Dimitri Olivier. Voilà, tout est Dimitri Olivier. Donc, de toute façon, c'est assez facile pour me retrouver.
Dimitri Olivier, comme deux prénoms. Voilà, ça s'écrit. Enfin, il n'y a pas de.
Qu'avec des i.
Qu'avec des i, il n'y a pas de piège. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Je souhaite un long voyage à Amy et puis à toi aussi dans cet univers de romancier et d'écrivain. Voilà, bienvenue en tout cas dans la famille.
Merci beaucoup.
Voici, j'ai la chance d'avoir une illustratrice graphiste avec moi, Amandine Peter, qui nous vient directement de New York, mais qui a un accent bien français, hein, ne vous inquiétez pas. Amandine, dis-nous un petit peu ce que tu fais dans la vie. Voilà, t'es illustratrice graphiste, ok, mais en quoi ça consiste ?
Alors, je suis autrice aussi, d'ailleurs, je mentionne. Alors, illustratrice graphisme, en fait, je m'occupe de faire des couvertures pour les auteurs. Donc, en général, c'est des auteurs auto-édités. Je fais aussi des couvertures pour la maison d'édition Explora. Donc, c'est la maison d'édition pour laquelle je suis aussi autrice. Donc, je m'occupe de mes couvertures, de celles d'Explora et d'autres de mes clients. Voilà.
Génial. Donc, du coup, tu dessines et tu utilises aussi, j'imagine, assistée par ordinateur.
Oui, c'est bien ça. Alors, l'illustration, moi, j'ai une tablette et je fais ça, en fait, sur tablette iPad avec un stylo iPad. Je fais aussi des montages Photoshop. Donc, j'utilise un peu plein de logiciels pour vraiment créer un visuel hyper intéressant. Et puis, voilà.
Et ça fait de belles couvertures. J'ai vu quelques couvertures d'auteurs que tu as illustrées. Effectivement, c'est très sympa. du coup, tu vis aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que donc, tu travailles complètement en distance avec Explora ? Parce que Explora, j'imagine que c'est une maison d'édition française.
Oui, c'est bien ça. Explora est basée à Paris. Et moi, effectivement, je vis à l'année hein, aux États-Unis. J'ai une maison, mais j'écris en français. Et donc, bien sûr, il me fallait... Je me suis lancée en auto-édition au début, ça me plaisait bien, mais je sentais que j'avais besoin d'un pied-à-terre, en fait, de quelqu'un qui me représente en France, qui peut faire des salons, vendre mes livres devant les gens, parce que là, je suis au Imaginal, c'est bien, mais je rentre pas pour tous les salons ou pour faire des dédicaces tous les mois, bien sûr, parce que voilà, c'est de la logistique. Donc, ça me fait plaisir, en fait, d'avoir une maison en qui je peux avoir confiance. En plus, c'est une super maison d'édition très éthique qui me représente ici en France. Et ça se passe très bien au niveau de la communication, malgré le décalage horaire.
Mais sinon, il y a 7 heures
6. Ouais, il y a 6 heures, moins 6 heures.
Eh ben, c'est bon à savoir. Enfin, du coup, ça te permet d'avoir ce pied-à-terre, d'avoir cette confiance-là et du coup d'atteindre le lectorat français sans avoir à te déplacer tous les deux minutes pour les salons.
Je me suis aussi lancée récemment l'écriture en anglais, donc j'essaye aussi d'être publiée aux États-Unis. Bon, ça c'est une autre histoire, mais voilà. Et puis, sinon je suis super contente d'être ici. Et c'est un beau salon.
Oui, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, on a de la chance. Ouais. Il fait beau, les gens sont sympas.
Très sympa. C'est vraiment, il y a une super ambiance. Tout le monde est souriant, tout le monde est. Et c'est vraiment, ouais, c'est. Tu rentres et puis tu sens, ça sent les livres et puis tout le monde partage la même passion. C'est une énergie. Enfin, moi, ça me nourrit. C'est génial.
Oui, moi, ça me donne toujours aussi beaucoup envie d'écrire ces moments-là. Du coup, tu te lances aussi dans l'écriture en anglais. J'imagine qu'aux États-Unis, c'est complètement différent la façon pour trouver un éditeur. Ça n'a rien à voir avec en France. Tu nous en dis quelques mots ?
Bien sûr. Alors effectivement, c'est très différent dans le sens où aux États-Unis, on commence... Je vais dire dans 80-90% du temps, en fait, il faut avoir un agent littéraire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire le lien entre l'auteur et la maison d'édition. En France, ça... On en trouve, donc ça démarre peut-être un petit peu, mais c'est pas encore le cas, c'est pas démocratisé. Aux États-Unis, il y a carrément des maisons d'édition qui ne prennent pas de manuscrits envoyés par les personnes, les auteurs directement. Ça passe vraiment par des agents. C'est pas une mauvaise chose. Les agents littéraires représentent les auteurs, ils négocient les contrats, ils sont vraiment là pour soutenir les auteurs et en même temps, ils touchent des commissions, on ne les paye pas directement. Donc s'ils ne vendent pas ton roman, ils ne touchent rien. Donc au moins, c'est vraiment un partenariat, c'est quelque chose de... Moi, je trouve que c'est un bon système. Et là, bah, là actuellement, voilà, je suis en recherche d'agent. On verra ce que ça donne, mais voilà, je suis motivée.
Donc ton projet, il est fini et là, voilà, il est prêt à l'envoi, quoi.
Voilà, c'est ça. Tout est fini.
Est-ce que tu peux nous donner le roman, au moins le titre, pardon, de ton ou tes romans français, déjà qui sont chez Explora ?
Alors, j'ai La couleur des nébuleuses, donc c'est une duologie de Space Opera, qui est d'ailleurs, il a été finaliste des plumes francophones d'Amazon, et cette année, il faisait partie des 25 sélectionnés au PLIB, le prix littéraire de la sphère, de la booksphère. Et j'ai la trilogie du Stream, qui est une sorte de dystopie science-fiction, et je viens de sortir De brume et d'ospal, qui est un one-shot de fantasy. Voilà.
Eh bien, encore une auteure prolifique, j'adore, on n'a que des auteurs prolifiques, et en plus tu ne fais pas que ça, puisque tu es aussi graphiste, illustratrice. Un gros boulot en tout cas. Bah, merci beaucoup Amandine, on te retrouve sur les réseaux sociaux du coup, déjà je suis très contente d'avoir pu croiser ton chemin aujourd'hui, puisque c'est pas tous les jours qu'on peut te croiser en France. Dis-nous où te retrouver du coup, Facebook, Twitter, Insta, TikTok, j'en passe des meilleurs.
Alors, je suis plus présente sur Instagram, donc c'est Amandine Peter Autrice. Je suis aussi présente sur Facebook. Là, c'est pareil, je crois que c'est Amandine Peter, autrice ou auteur, je ne sais plus, j'avais changé, mais bon, bref. C'est Amandine Peter, en tout cas, vous me trouverez. Je suis sur YouTube, j'ai aussi une chaîne YouTube Amandine Peter où je parle de l'écriture. Je donne un petit peu des conseils d'écriture aussi pour les écrivains débutants. Je suis sur TikTok, mais honnêtement, j'ai 36 ans, je me sens un peu vieille pour TikTok, mais j'essaye. Et puis voilà, sinon c'est déjà bien.
Ouais, oui, c'est déjà pas mal.
Donc voilà, c'est déjà suffisant, je trouve.
Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est très chronophage aussi. Donc,
tellement. Ouais.
Bah, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes au micro de La Voix de la Plume et de Graphite. Et puis bonne continuation, à bientôt. On se recroisera d'ici la fin du salon, de toute façon.
Bah, je te remercie beaucoup, c'était vraiment super chouette. Je m'y attendais pas et j'aime bien. Moi, j'adore échanger, donc merci à toi.
Maintenant avec une autre nouvelle auteure, Raphaël Eviana. Raphaël, merci de te prêter au micro de La Voix de la Plume et de Graphite. Tu as publié récemment Les Forêts de Dracula. Dis-nous-en un petit peu plus, parce que Dracula, on connaît, mais Les Forêts de Dracula, qu'est-ce que ça raconte ?
Tout d'abord, merci Aurore de m'inviter. Je suis très contente de parler de ce roman, Les Forêts de Dracula, qui est un thriller engagé. Qui traite du sujet de la mafia du bois, qui exploite les forêts roumaines. Et alors oui, l'originalité, c'est que c'est une réécriture moderne de Dracula. Et comment m'est venue l'idée ? C'est en lisant un article du Courrier International qui parlait de ce fléau, donc la mafia qui exploite le bois illégalement. Et j'ai ensuite voulu faire un parallèle avec Dracula en reprenant par exemple la structure narrative du roman de Bram Stoker.
Super, donc du coup c'est un roman définitivement contemporain qui traite de sujets réels. D'ailleurs il me semble que tu mets l'article à la fin de ton roman pour qu'on puisse le lire et puis voir quelle était ta source d'inspiration, tout en gardant du coup le mysticisme de la région dans laquelle se passent les faits. Donc c'est assez cool, c'est une bonne idée. Enfin, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé ton roman pour l'avoir lu. C'est un roman que tu as auto-édité. Et comment tu as procédé du coup pour cette auto-édition ?
Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, j'ai mis les articles à la fin parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Il faut savoir que moi, je viens d'une formation de journalisme à la base. Et alors, oui, en effet, j'ai auto-édité et pour cela, je suis passée par une campagne de financement participatif. C'est-à-dire que j'ai proposé mon roman en pré-vente pour pouvoir notamment prévoir à l'avance combien de romans éditer. Et voilà, aussi pour
un souci de trésor, en fait, pour aussi avancer un peu les frais d'édition.
Oui, voilà, exactement, parce qu'il faut savoir que quand on est en auto-édition, on passe par un correcteur professionnel, mais aussi par une personne qui fait la couverture, un graphiste. La campagne de financement participatif, c'était idéal pour ça.
Oui, ça t'a permis du coup de financer et d'avoir cette belle couverture qu'on voit, Les Forêts de Dracula, qui est effectivement assez mystique finalement. Et on se doute pas tout de suite que tu parles d'un sujet contemporain et bien réel. Et pourtant, on est très vite ancré dans ton roman, quand on le lit. Je l'ai lu quasiment d'une traite d'ailleurs. Donc c'est ton premier roman, Les forêts de Dracula. J'imagine que tu ne vas pas t'arrêter là. Si en plus tu as une formation première de journalisme, écrire, c'est un peu dans ton ADN aussi. Quels sont tes projets pour la suite, Raphaël?
En effet, c'est vrai que j'aime écrire et j'ai maintenant envie d'accompagner des auteurs qui sont eux-mêmes en auto-édition, parce que l'auto-édition, c'est pas facile, mais c'est une très belle aventure et j'encourage tous ceux qui veulent s'y lancer à le faire. Et je suis donc en train de créer une association pour que les auteurs, que ce soit des auteurs auto-édités ou des auteurs édités en maison d'édition, puissent se retrouver et avancer ensemble dans leurs projets pour se motiver ensemble, parce que c'est pas toujours facile, aussi pour avoir un avis extérieur des autres auteurs, parce que plus on est et plus on va loin. et je suis également en train d'écrire un livre pour aider les auteurs auto-édités à promouvoir leurs livres, notamment par des campagnes de financement participatif et autres, donc à découvrir dans les prochains mois.
Donc un guide pour tous les auteurs auto-édités, débutants même, qui a envie de se lancer.
Oui, c'est ça. Et du coup, si vous voulez suivre l'aventure, mes aventures d'autrice, j'ai un compte Instagram où je suis assez active, @ sur Instagram, Raphaël, avec PH et 2 LE, -8, Eviana, -8, auteur avec un E.
Très bien. Et bien sur Insta, on te suivra, Raphaël, puisque c'est des débuts prometteurs. Et en plus, tu as une belle démarche de vouloir partager ça avec d'autres et puis d'aider de jeunes auteurs à se lancer. Donc vraiment, bravo, félicitations. Et je suis contente de t'avoir rencontré sur ce salon. Allez, pour changer un petit peu des auteurs, parce qu'il n'y a pas que ça non plus aux Imaginales, il y a aussi d'autres métiers, d'autres créateurs. Je vous propose cette petite interview avec Mathieu Rubio, qui est créateur de jeux. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors ton jeu s'appelle Malzan, prononce bien?
C'est ça, bravo. C'est pas gagné, il y a plein de gens qui le prononcent très mal, mais oui, Malzan.
Malzan, dis-nous un petit peu plus du coup comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, quel est le principe du jeu et dans quel univers tu l'as ancré.
Ouais, alors c'est un univers heroic fantasy, donc ça parle pas mal aux Imaginales, donc ça c'est cool. Du coup c'est un jeu d'aventure semi-coopératif où t'as un joueur qui va jouer un dieu maléfique qui va essayer de se réveiller. Il va avoir une armée de gobelins à sa disposition, il va essayer de semer le chaos le plus possible en but de se réveiller. Et face à lui tu vas avoir des aventuriers qui vont essayer d'en empêcher. Mais parmi les aventuriers, c'est ça qui fait un peu le sel du jeu, c'est que tu vas avoir des traîtres. Des traîtres qui vont jouer en mode solitaire, ils veulent juste sauver le monde mais tout seul. Et tu vas avoir des traîtres qui vont s'allier justement avec le grand méchant. Et après tu vas avoir des gens gentils qui vont essayer de sauver le monde. Donc voilà, on sait jamais vraiment qui est qui, on sait juste qui est le grand méchant, qui sont les aventuriers, mais parmi les aventuriers, tu auras des rôles cachés. Donc ça ajoute pas mal de piment dans le jeu et c'est assez rigolo.
On a l'impression que du coup on peut jouer à 1000.
Ouais. Alors pour l'instant le max c'est 6, mais ouais, de 3 à 6 tu peux y jouer. Mais ouais, ça peut être cool. J'aime bien quand il y a plein d'interactions avec les joueurs. En plus il y a des joueurs, au plus les parties sont uniques, ça c'est cool. Ouais.
Est-ce qu'on a une chance de gagner? Parce que finalement s'il y a un grand méchant qui est un joueur, qui prend déjà la place d'un joueur, qui a aussi des aventuriers qui peuvent être des traîtres, est-ce qu'on a vraiment une chance de gagner à Malzan?
C'est une très bonne question. En gros, ouais. En fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que le grand méchant, même si c'est un dieu, t'as une chance de le gagner, le vaincre avant qu'il se réveille. Parce qu'en fait, il a une sorte de petit coffre, enfin, il a un cœur quand il était un humain dans le lore du jeu. Et du coup, si t'arrives à trouver son cœur et qui est enfermé dans un coffre et que t'arrives à trouver la clé, et ben là, tu t'arrives dans un hôtel, le temple des anciens dieux, et là, tu t'embranches le cœur, et là, le jeu est terminé, t'as gagné.
T'as killé le game.
C'est ça. Et le méchant, il n'a même pas eu le temps de se réveiller, d'ouvrir les yeux, qu'il est déjà mort. Donc là, t'as une chance de le sauver. Mais si t'y arrives pas, le méchant se réveille, et là, c'est pas fini. Là, il y a un gros fight final où toi, si tu t'es bien équipé, parce que dans le jeu, tu peux t'améliorer, tu peux avoir une meilleure armure, une meilleure épée, etc. Bah, tu peux essayer de vaincre dans un espoir de fou le grand méchant et avoir une petite chance de gagner. Donc c'est jamais fini à 100%. Tu vois, il peut toujours avoir des twists. Et ça, c'est assez chouette, ça j'aime bien.
Ouais. D'accord, donc Malzan, le jeu où rien n'est jamais perdu.
Exact,
en fait.
Tout à fait. Ouais.
Et du coup, c'est quelque chose que tu as créé il y a longtemps, ce jeu. Est-ce que c'est ton premier jeu déjà? Et depuis quand tu l'as créé? Comment ça se passe là, t'es encore en cours de test, hein, on en parlait tout à l'heure. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu cette aventure-là aussi.
Eh bien, ça fait 6 ans que je bosse dessus. 6 ans et demi, même bientôt. Ça fait 6 ans et demi. Attends, ça c'était ta première question. Ta deuxième c'était quoi déjà?
Comment t'as pensé à créer ce jeu et qu'est-ce qui t'a amené du coup jusque-là, t'es en phase de test.
Ouais, c'est ça. Donc, ça fait 6 ans. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est qu'en fait, j'aime bien les jeux vidéo. Avant de faire ce jeu, oui, c'est mon premier jeu aussi. Et avant de faire ce jeu de société, en fait, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien. En fait, je connaissais pas trop l'univers des jeux de société, quoi. Je connaissais les trucs classiques, quoi, genre Monopoly, tout ça à la con, quoi. Et désolé, j'ai un gros. Et donc, bref, ouais, en fait, c'était plus à la base des jeux vidéo. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien un jeu vidéo où on peut faire ça, mais ça n'existe pas. Et moi, tout seul, à ma petite échelle, je peux pas faire de jeux vidéo. Donc, toutes ces idées-là que j'avais pour un jeu vidéo, je l'ai mis en jeu de société. Et c'est à partir de là où un jour, j'ai passé un week-end entier à créer des trucs, à colorier des cases, etc. Et quelques jours après, je l'ai fait tester à des potes. Et je me suis dit, bon, ça va pas forcément marcher. Si, en fait, tu vois, on a passé une bonne soirée. Alors, le truc était pourri. Mais c'était chouette. Et là, ça m'a motivé pour continuer, le développer, le faire tester dans les festivals, dans les bars à jeux, etc., etc. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, j'ai dû le faire tester au moins. Je l'ai fait. Ça, c'est là, je suis en train de faire la 186e partie. Là, actuellement, il y a des gens qui jouent. Et ouais, il y a dû y avoir moins, il faudrait que je rencontre, mais plus de 800 personnes qui ont joué différentes. Donc ça commence à faire pas mal de tests, et c'est cool, il faut en fait. Tu peux pas faire un jeu si tu le fais pas tester en fait.
Vraiment, ça t'a permis d'améliorer les versions depuis ta première version, après ton week-end de réflexion. Là, on arrive à une version quasi aboutie du coup.
Ouais, c'est ça. Puis en plus, ce qui est dur, c'est que au début, t'as 1000 idées, et t'as pas envie d'en enlever une en fait. Du coup, des fois, je suis parti dans des trucs où en fait, quand tu mets vraiment le jeu à l'épreuve, quoi. Tu te rends compte qu'en fait, c'est pas forcément. Ça marche pas ou ça rend le jeu plus lourd, etc. Donc, des fois, t'es obligé de dire bon, j'enlève ça, j'ai une petite larme qui coule, mais c'est pas grave.
Donc, oui, et puis tu l'as fait à l'usage, donc ouais. C'est pas de ton propre fait. Tu te dis, ah, je vais sacrifier ça. Non, c'est parce que ça fonctionne pas à l'usage que du coup, tu l'as fait. Donc, ça a été fait avec intelligence.
Oui, c'est ça. Ouais, tu sais pourquoi tu fais ça, donc c'est cool. Tu vois, si dans ma tête, on m'aurait dit, quelqu'un m'aurait dit, ah non, il faut enlever ça comme ça. Là, j'aurais dit, ah, mais non, je vais tester, tu vois. Mais quand tu le vois, en fait, tu te dis, bon, il faut se mettre à l'évidence, quoi. Il faut enlever ça, en effet, ça marche pas, ça rend le jeu trop lourd, etc.
J'imagine qu'en 6 ans, le graphisme a pas mal évolué aussi, parce que là, du coup, on pourra le voir sur les photos, sur l'article, le jeu est quasi abouti, même en version comme ça, bêta. Mais du coup, comment ça s'est passé aussi pour cette évolution? Est-ce que c'est toi qui as dessiné? Est-ce que c'est toi qui as fait le graphisme de tout?
Alors ouais, c'est vrai qu'il commence maintenant à ressembler à un truc un peu final, donc ça, je suis content. Au début tu toucheras rien sur l'ordi, hein, tu fais rien. Hein. C'est que il faut vraiment faire que ça, au marqueur, tu vois, tu prends une feuille au marqueur. Après, faire des semaines, des mois, des années, ça commence à être un peu plus pro. Et donc ouais, au niveau des élus, en fait la boîte c'est Clémentine Boutou qui a fait l'illustration de la boîte. C'est pas une boîte finale, hein, l'illustration n'est pas terminée. C'est une ébauche bien travaillée, mais voilà. Et le plateau, c'est une amie, Noé Dussol-Brindel, qui a fait le plateau à l'aquarelle, sur un format plus grand que du raisin, je crois. Elle a mis un mois à faire ça en aquarelle, incroyable. Le plateau, du coup.
Pour l'instant, c'est un plateau unique.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Après, là, ce que tu vois, c'est scanné, etc. C'est quand même numérisé, tu vois. Et après, tout ce qui est genre personnages, etc., les petits trucs, ça, c'est pour l'instant des refs sur Internet. C'est pas des illustrations pour le jeu. Ça sera fait plus tard, tu vois, quand le jeu il sera bien rodé, que soit je trouve un éditeur et c'est lui qui va s'occuper d'engager une personne qui va illustrer tout le jeu, ou soit si je fais un campagne de financement, c'est moi qui vais payer une personne pour faire l'illustration de tout le jeu. Donc ouais, le jeu, tous les visuels du jeu pour l'instant, 100%, pas beaucoup sont vraiment faits pour le jeu pour l'instant. J'ai pas de droit pour faire ça, quoi.
D'accord, c'est juste des visuels empruntés et puis voilà. Eh ben super, donc ça marche bien, j'ai vu les gens, ils étaient en pleine partie. Finalement, on est entre le jeu de société et le jeu de rôle, à mi-chemin. Hein.
Exactement, ça, alors là, moi, en vrai, le jeu de rôle, je ne connaissais pas du tout avant d'avoir fait le jeu. Et avant que des joueurs, des rôlistes, disent « Ah tiens, c'est cool en jeu de rôle, quoi !» Et c'est clair que j'adore le jeu quand je vois des gens qui jouent, des rôlistes, qui jouent au jeu, parce qu'en fait, ils sont tellement dans le personnage, ils vivent leur personnage, ils parlent comme leur personnage. Oh, c'est incroyable, j'adore les voir, je me délecte, je joue pas beaucoup au jeu, hein. Mais quand j'adore voir les gens jouer en fait.
Et t'as l'impression que ton bébé prend vie, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Et vraiment, là où ça te fait le plus plaisir, c'est quand t'as des gens qui parlent des mois, même des années après, du jeu. Et qui te parlent pas du jeu comme un jeu en fait, ils te parlent comme un souvenir. Ils disent, je me rappelle d'avoir fait ça, d'avoir vécu ça, d'avoir été trahi à ce moment-là, enfin je sais pas quoi. Et c'est cool, ça te fait trop plaisir d'avoir créé des souvenirs chez les gens. Ça, j'adore, c'est trop cool.
Et c'est ton... Du coup, t'en vis ou pas encore? Ou tu fais autre chose à côté, complètement?
Ouais. Je travaille dans le cinéma d'animation. Donc, je suis intermittent. Donc, grâce à ça, ça me permet d'avoir du temps à moi pour travailler sur le jeu. Sinon, je pourrais pas, parce que franchement, en vrai, c'est très rare de vivre de tes jeux. Tu peux pas vivre avec un jeu. Pour vivre vraiment, il faudra avoir au moins une dizaine de jeux à ton actif, quasiment, tu vois.
Qui fonctionne bien,
ouais, c'est ça. Donc là, en vrai, en France, tu dois avoir 2-3 auteurs, pas plus, quoi. Pas plus que 5, en tout cas, qui vivent de ça, tu vois. Moi, Antoine Bozza, Bruno Catala, enfin, c'est peut-être les deux plus gros qui gagnent, qui sont bien, tu vois, qui peuvent vivre de ça, quoi. Mais sinon, après, tous les gens que je connais, les auteurs, c'est des gens, ils ont tous un travail à côté, quoi. C'est des gens qui font du fromage, qui travaillent à SNCF, je sais pas, tu vois. Tout le monde fait des travails, des fois, assez tellement différents.
Mais du coup, c'est une passion que t'as nourrie et puis qui occupe bien tes week-ends, du coup.
Mes week-ends, mes journées, mes semaines. Ouais, c'est quand tu fais un jeu, tu te dis, tu vas pas faire de l'argent, tu vois. Si tu le fais, mais c'est ça qui est bien, parce que du coup, tu fais ça parce que t'en as envie, parce que t'es passionné, tu vois, t'as envie que ce jeu, il existe. Si tu fais ça pour la thune, je pense qu'il y aurait trop de jeux et pas forcément qui ont du sens, tu vois.
Donc, tu t'arrêterais vite, du coup.
Ouais, t'arrêterais vite, ouais, c'est ça. Ouais. Là, j'ai trop envie qu'il existe, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, c'était mon bébé. Et j'ai qu'une hâte, en fait, c'est que ce bébé-là, il soit plus mon bébé, tu vois. Qu'il prenne ses ailes et qu'il fasse sa vie et que moi, je le vois de loin. Faire, ah tiens, c'est cool, il est là, tu vois, mais c'est tout. Tu vois, genre, je crois envie qu'il commence à marcher et que voilà, je le tienne plus par la main.
Voilà, on attend que Malzan prenne son envol.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc pour ça, il faudrait soit un éditeur ou alors, du coup, en campagne de financement, t'es pas encore décidé. Hein.
J'attends de voir. En parallèle, que je le fasse tester, bah voilà, je vois. Si je trouve un éditeur qui est cool, qui aime bien le jeu, qui comprend l'idée et qui peut l'améliorer, je serais trop content et qui a les compétences pour faire tout ça. Sinon, si je trouve pas, bah ouais, je le finance moi-même. Ce qui est plus dur, c'est l'aventure. Mais c'est cool parce que tu gères vraiment tous les aspects de tout, la fabrication du jeu, combien tu penses le vendre, le matos, tu vois, genre c'est un équilibre de prix. Enfin, il y a tellement de choses à gérer qui fait flipper de ouf. Mais qui est quand même bien, donc voilà, faut voir.
Puis aujourd'hui, avec les campagnes de financement, finalement, c'est quand même une sorte de pré-vente, donc ouais. Tu t'engages pas non plus trop. Exactement. Financièrement, donc ça rend les choses possibles aussi.
Exact, ça c'est clair, de ouf, franchement, heureusement qu'il y a ça. Par contre, après, t'en as tellement maintenant des campagnes de financement que je commence à voir des joueurs qui sont un peu blasés, qui se limitent un peu plus, quoi. Donc ouais, ça c'est cool. En effet, il n'y a pas trop de risques financiers. Par contre, voilà, si je fais 500 ventes, bah, le jeu après il peut être vite entre guillemets oublié, en sens où ok, il y a 500 personnes qui l'ont acheté, c'est cool, mais c'est que entre guillemets 500, dans le sens où si c'est un éditeur, bah là l'éditeur il va le vendre dans des boutiques.
Oui, il y a une distribution qui est différente, c'est ça, et tout ça. C'est ça. Après, même si tu fais en campagne de financement, finalement, si tu as 500 personnes qui achètent pendant la campagne de financement, soit ça peut peut-être te permettre de financer 1000 jeux et avoir 500 autres jeux après à distribuer en salon.
Ouais, c'est clair. De toute façon, dans tous les cas, je prends toujours un peu plus que si je fais ça. Comme ça me permet de les vendre, enfin les mettre dans des assos, dans des boutiques, etc. Donc voilà, c'est une aventure, on verra quel chemin je vais prendre. Pour l'instant, je me focus quand même sur l'amélioration du jeu, le rendre plus fluide, etc.
Tu touches au but.
Ouais, je pense que dans les prochains mois, là, je me dis juillet, j'aimerais bien. Ce serait cool, hein, juillet, que je finis tout. Les règles du jeu, qui est horrible, j'ai horreur d'écrire ça, c'est chiant. C'est tellement chiant d'écrire les règles du jeu.
C'est encore plus chiant de les lire, hein, je te rassure.
Ouais, c'est clair. Alors moi, j'essaye de faire un truc, vu que j'ai horreur de faire ça. Dans le jeu, je fais un truc là, où les gens, en fait, tu lis des cartes, et t'apprends de manière progressive. Tu lis pas les règles, en fait. T'as aucun manuel. Enfin, t'auras quand même un manuel, mais l'idée, ça serait que... Enfin, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, là. Où tu lis des cartes, tu dis, ok, je peux faire ça. Et puis après, tu commences un petit peu à jouer, tu lis des nouvelles règles, t'apprends de manière progressive en jouant. Pas en lisant des règles, tourner les pages et comprendre que le quart de ce que tu viens de lire, etc.
Mais ça peut être un super gros point fort parce que c'est assez rare et du coup, moi en tant que joueuse, quand je passe déjà 10 minutes à lire la règle, ça me fatigue.
Ah,
et puis ben, pour des jeux un peu drôles ou de société un peu complexe, des fois c'est une heure pour vraiment bien comprendre comment ça se passe et finalement à la fin de ta partie, tu te dis qu'en fait t'avais quand même loupé ci ou ça. Et c'est vrai qu'avoir une façon de jouer en apprenant de façon progressive, ça serait vraiment super et je pense que c'est un super point fort que tu pourrais mettre en avance.
J'espère aussi, moi j'aime bien ça. Après, t'as des joueurs qui aiment pas apprendre de manière progressive, ils aiment bien tout savoir d'un coup. Et après, jouer. Mais je pense que c'est quand même pas la majorité, donc c'est cool. Moi, je suis comme toi, j'aime bien apprendre. Même si c'est une première partie, je m'en fiche, tu vois, c'est pas grave si on gagne pas. Juste l'idée, j'ai envie de comprendre le jeu sans que perdre une demi-heure à lire les règles, quoi. C'est pas rigolo. Quoi.
Et puis en plus, comme du coup, on peut rejouer en n'étant pas le même personnage. Ouais. Donc du coup, ouais. le jeu est pas sans fin, mais il y a quand même des possibilités assez cool. Et selon le nombre qu'on est, ça donne pas non plus la même partie. Donc,
En fait, dans le jeu, je trouve qu'une des forces du jeu, c'est que chaque partie est différente parce que c'est les joueurs qui font le jeu. Et ça, c'est incroyable, je trouve, parce que chaque partie est totalement différente. En fait, il y a un joueur qui va faire une action qui va tout changer le game, en fait. Et cette action-là, personne ne pouvait la prévoir, en fait, même pas moi, tu vois. Donc ça, c'est cool. Chaque partie est vraiment différente et ça, j'aime bien. Donc ça, je suis assez content. Donc, ouais, ça fait quand même des... Ouais, pour le coup, il y a quand même ce truc infini dans le sens où, ouais, des joueurs vraiment créent le jeu, quoi. Ça, c'est cool.
Bah merci beaucoup Mathieu, c'était hyper intéressant. Donc du coup le jeu s'appelle Malzan, M-A-L-Z-A-N,
yes.
de Mathieu Rubio. On peut te retrouver sur Insta ou quelque part pour suivre l'évolution si on a envie de savoir.
Malzan le jeu, malzan.lejeu sur Insta et le vieux réseau social Facebook. ce sont les deux réseaux, je suis là et justement s'il y a des nouvelles, si le jeu il existe, soit en campagne, soit en boutique, ça sera noté.
Voilà, mon passage aux Imaginales du 19 au 22 mai se termine. C'était un très beau festival. Je remercie aussi ma maison d'édition, parce que moi j'étais là pour Graphite, faire quelques interviews d'auteurs, mais également grâce à Nanashi Édition, pour présenter ma trilogie fantasy, héroïque fantasy médiévale, l'Oneida. C'était vraiment chouette de pouvoir venir à la rencontre des lecteurs, des gens qui étaient venus l'année dernière me prendre le livre 1 et qui sont venus chercher le livre 2 et 3. Ça, c'est vraiment, vraiment une belle reconnaissance de la part du public et de nouvelles rencontres aussi avec de nouveaux lecteurs, et voilà, je serais ravie de revenir aux Imaginales l'année prochaine. Peut-être que j'aurai aussi l'occasion de vous refaire un petit tour d'auteurs et d'illustrateurs et de créateurs l'année prochaine. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit reportage des Imaginales 2022. Merci à la ville d'Épinal de nous avoir permis de faire ce festival dans un lieu très sympa, puisqu'on était dans un parc, il a fait super beau. C'était vraiment, vraiment une belle expérience. Eh bien, voilà, la Voix de la Plume se termine. Pas d'atelier d'écriture aujourd'hui, évidemment, puisque on est un petit peu dans une configuration différente de d'habitude. À bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux @AYGBleu, mon nom d'auteur. À bientôt.